Le Fab Lab dans lequel j'avais travaillé en 2013.
C'était sur ça. Ah oui. Et tu peux raconter un peu le parcours que tu as fait pour arriver à là où tu es maintenant?
Ah ok. Bon. Depuis jeune, je me suis intéressé à l'informatique. En ce moment, je faisais la classe de 5e. Je montais en 5e en fait quand je suis arrivé à Lomé chez un oncle. Donc sa femme, elle est comptable, secrétaire de direction. Et on avait à la maison un ordinateur.
Ouh, et t'avais en 5e, t'avais 10 ans?
Ouais, 10 ans. 10 ans, je montais en 11e année. Dans 11e année. Donc, c'est là que j'ai commencé à apprendre un peu. Quand je me suis finalement immergé, c'est quand je faisais la classe de terminale, où j'ai rencontré des copains avec qui on faisait quelques recherches. Au début, c'était des défis qu'on se posait, bon, qui pouvait hacker le compte de telle personne ou bien un truc du genre.
Ah oui.
C'était un peu ça.
Et vous travaillez déjà sur Linux?
Non, pas tellement.
Non, Windows.
Pas tellement. C'était plutôt Windows. Et quand je faisais la première année à l'université, à la fin de la première année, en deuxième année, j'ai rencontré des gars. Un autre gars comme ça, parce que j'adore un peu le cinéma, je fais un peu de tout. Et je voulais participer à... J'avais participé à... À un casting pour une série télé. Et lors du casting, bon, parce qu'on était appelés à parler de nos passions et tout, j'ai rencontré un ami qui malheureusement n'est plus aujourd'hui. Et on a sympathisé après. Une semaine à l'avant, c'est fait qu'on s'était déjà rencontré dans un atelier où on devait apprendre à faire un site internet à partir de logiciels DoWeb entre temps. Donc, pour la seconde fois, on s'est retrouvés ensemble au casting. Donc, on a beaucoup discuté et tout. Et après, j'étais là à la maison comme ça. Il m'appelle, viens, il y a un atelier dans mon quartier où on montre aux jeunes comment monter eux-mêmes leurs ordinateurs et tout. Bon, c'était midi. Je dormais, bon, je me suis réveillé, j'ai sauté sur le coup. Et c'est là que j'ai rencontré en fait d'autres gars en fait, qui partageaient un peu la même vision que moi, qui n'avaient pas les moyens de faire des études en informatique.
Mais... Est-ce que toi, tes études à l'UNIF, c'est l'informatique?
Non. En fait, à l'université, je me suis inscrit en économie.
Juste.
Bon, au début, je voulais faire de la médecine. Spécialement la médecine militaire. Mais bon, mon dossier a été rejeté à la dernière minute. Du coup, j'avais peu d'options pour m'inscrire en faculté de médecine civile. Donc, je me suis dit, j'avais le choix entre faire la biologie, faire la mathématique ou bien faire les sciences physiques. Je suis arrivé, je connais un peu le domaine de la biologie. Et il s'est fait que la veille, j'avais suivi un documentaire qui parlait de l'économie, comment est-ce que l'économie gouverne, grâce à l'économie, on peut changer les choses et tout. Je me suis dit, je vais me lancer dans un monde inconnu et je me suis inscrit en faculté d'économie comme ça.
Ouais. Mais pardon, je t'ai interrompu. Tu étais dans l'atelier où tu as rencontré les jeunes qui n'avaient pas pu étudier l'informatique.
Ouais. Et c'est comme ça, après l'atelier, j'ai commencé par travailler avec eux. Bon, en ce moment, j'avais une connexion Internet à la maison parce que j'avais délogé. Quand j'ai eu mon bac, j'ai finalement quitté mon oncle. Je me suis installé avec des cousins. Et j'avais une connexion Internet à la maison. Ce qui faisait que j'étais connecté 24 heures sur 24.
Donc, ce qui est assez exceptionnel.
Assez exceptionnel. Même si la connexion n'était pas bonne, bon, je pouvais télécharger des PDF. Même si bon, un PDF de 1 méga, tu peux passer 2 heures de temps à le télécharger. On trouvait notre petit moyen pour télécharger, en tout cas, et lire. Donc, c'est un peu comme ça. J'ai commencé par partager. Je récupérais des fichiers audio des autres gares et tout. Et ensemble, vu qu'il y avait... on venait de rencontrer, en fait, le mouvement Maker, le Fab Lab et tout. Donc, on s'est tous impliqués parce que un peu, on se regroupait, ceux qui partageaient une passion.
Et le Fab Lab et le mouvement Maker, vous l'avez rencontré sur Internet?
Non, à Lomé. En fait, c'est à travers l'atelier d'Iri à laquelle moi je vais participer que j'ai rencontré.
Oui.
C'est le web, le WeLab, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu.
WeLab. WeLab, non.
Ah, c'est un peu reconnu en tout cas.
Ah oui. Ouais. Bon. Maintenant, je connais.
Il travaillait sur un projet de fabrication d'imprimantes 3D à partir de déchets recyclables. Mm-hmm. Et là-bas, j'ai eu l'honneur de travailler avec le concepteur qui s'appelle Afat Nikou. Bon. Vu qu'on était tous des mordus, on faisait plus de 3 mois au lab sans rentrer à la maison. Ouais. Il m'arrivait des fois de quitter la maison. Quand tu rentres, on te dit, bon, tu étais où? J'étais nulle part. J'étais juste à côté, dans l'autre quartier. Et je rentre peut-être le matin, de passer 2 heures à la maison, chercher quelques habits, se changer, faire le plein de sacs et on retournait, quoi. Donc c'est comme ça, j'ai beaucoup appris en restant là. Et beaucoup de mes connaissances, des gens que j'ai rencontrés dans le domaine de l'informatique et du making, en fait, c'est là-bas que je les ai rencontrés. Mes premières sorties, mes premiers travaux sur des projets alliant technologie, c'était là-bas. Et en 2013, j'ai eu l'honneur de participer à Afropixel avec Susanna, où j'ai monté, j'ai fait un atelier sur la fabrication d'ordinateurs à partir de déchets recyclés à Dakar. Donc c'était 2 semaines où j'avais travaillé.
Pour mener l'atelier.
Oui.
Oui.
Parce qu'ils voulaient lancer en fait une communauté, vu que c'est un projet open source.
Oui.
Donc dans chaque pays, il y a des communautés qui se créent. Donc par exemple, pour lancer la communauté du Togo, on s'était basé sur la communauté sœur du Bénin. Donc moi, j'étais à Dakar au même moment à apprendre à travers le festival, mais aussi de partager ce que j'avais comme connaissance. Et ça coïncidait aussi avec le lancement du Fab Lab, où il y avait un membre aussi de la communauté d'Odi Wonu qui était là-bas en tant que volontaire de la francophonie. Donc, ça m'a permis de m'intégrer rapidement et de pouvoir faire cet atelier-là. Donc.
Et quand tu dis à partir de déchets recyclables,
ouais.
C'est particulier par rapport à l'Afrique de l'Ouest,
ouais,
c'est des déchets.
Oui, c'est un peu particulier parce que les ordinateurs chez nous, bon, quand ça marche pas, on garde, quoi. Si tu envoies ça chez le réparateur, tellement lui aussi il a des machines à réparer. Et si tu n'as pas de monnaie à lui filer rapidement, bon, ton ordinateur est laissé de côté, on fait pour les autres en attendant. Donc beaucoup de déchets se retrouvaient cassés alors qu'on pouvait leur donner une seconde chance. Beaucoup d'ordinateurs se retrouvaient dans les dépôts de ferraille parce que il y a pas mal de temps, on a commencé à vendre des récup et tout. Mais ceux qui les achètent, en fait, ils n'ont aucune connaissance de l'outil. Eux, leur premier test, c'est quoi? On branche, si ça marche, on garde de côté. Si ça ne marche pas, c'est à casser. Or, il y a des trucs à récupérer, disons. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, le fait de récupérer surtout sur 4 ordinateurs qui sont jetés et d'en faire un autre ordinateur. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on implique celui qui a l'ordinateur dans la fabrication de son propre ordinateur. La personne s'approprie en fait la machine.
Ouais.
Et il fait son design, ce qu'il veut, comment est-ce qu'il veut le faire avec tout. Il est libre en fait. Mm. Donc c'est ce qui fait la particularité de ce projet. Et l'intérêt, en tout cas mon intérêt pour travailler sur ce projet.
Mais l'atelier à Dakar, c'était sur l'imprimante 3D?
Non,
non,
c'était
sur
l'ordinateur.
Okay.
Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils avaient déjà une imprimante 3D montée et tout.
Oui, oui, oui.
Donc, en juin 2013, bon, il y a un autre projet qui a débarqué à Lomé, qui s'appelait OpenStreetMap. C'était... on avait 2 semaines de formation sur ce que c'était, comment est-ce qu'on peut contribuer et tout. Mmh. J'ai pas eu la chance de participer activement à la formation parce que j'avais mes cours à l'université dans la matinée. À midi, je revenais, je suivais une partie de la formation. Mais le soir aussi, je suivais un autre cours parce que je faisais les cours de langue chinoise en fait. Donc le soir aussi, j'étais pas avec eux parce que c'était un sprint de 2 semaines où il fallait acquérir le maximum. Donc, quand je rentrais, je prenais les documents, je lisais et tout. Et après les deux semaines, l'expert français était reparti. Donc, on était resté avec un Sénégalais qui s'appelle Amadou Ndong, qui a continué les formations sur 1 mois. Donc, après ces 1 mois-là, il devait rentrer au Sénégal parce que le projet était déjà développé à Dakar. En partant, il m'a dit, tiens, j'ai vu le nombre d'édits que tu fais, c'est intéressant. Seulement, tu ne fais pas qu'éditer, mais tu fais très bien. Bon, ça ne t'intéresse pas de continuer à travailler sur le projet et à être leader, à former les autres en attendant que peut-être la francophonie y dépêche un volontaire international parce que c'est dans la continuité. Il devait y avoir un volontaire de la francophonie qui venait au Togo pour 1 an, qui va former les gens sur les bonnes pratiques de OpenStreetMap. Donc je me suis dit oui, bon, pourquoi pas. Et là, j'ai commencé par travailler sur le projet OpenStreetMap avec Alice Souka, une amie que j'ai rencontrée, et Richard Folly, avec qui je travaille toujours, parce qu'Alice, elle est actuellement au Burkina. Mmh. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai débarqué dans OpenStreetMap. Donc, on anime des ateliers à l'université, que ce soit aux étudiants de première année, deuxième année, troisième année, mais aussi à ceux qui sont en master et puis les doctorants. Donc, le but, c'est de leur montrer un peu... Les bonnes pratiques de OpenStreetMap, comment est-ce qu'on peut à l'échelle locale cartographier son pays, comment les outils libres, particulièrement la géomatique libre peut apporter à nos économies et promouvoir cette pratique de la géomatique, parce que au Togo, bon, on n'a pas une carte assez actualisée.
Il n'y a pas de GPS.
Bon, même les administrations, peut-être tu en trouves 2 ou bien 1 par administration. Mais grâce au projet OpenStreetMap et à l'appui de la francophonie, par exemple, nous avons 5 GPS. Que nous utilisons sur le terrain. Mm. Et nous avons aussi appris à utiliser les GPS dans nos portables. Donc, ce qui fait qu'avec 35 000 francs, tu achètes un portable équipé de GPS, tu peux faire un boulot, même si le niveau de précision n'y est pas. Bon, tu peux faire un boulot acceptable. Donc, on essaie d'inculquer, même si jusqu'ici, beaucoup restent réfractaires, surtout au niveau de l'administration, quant à l'utilisation des données libres, parce qu'on n'est pas trop open data dans notre pays, on craint pour la sécurité. Bon.
Oui, mais le OpenStreetMap dépend de l'administration, non?
Non, En fait, c'est le citoyen à l'échelle locale, à l'échelle individuelle qui cartographie. Par exemple, moi, là, je peux cartographier un autre pays que je ne connais pas, juste parce que j'ai accès à l'imagerie satellite et je peux numériser. Même si je n'ai pas les informations, mais je peux savoir si ceci c'est un bâtiment, si ceci c'est une route, ou bien si ceci c'est un fleuve. Donc c'est un peu comme ça.
Et les étudiants que vous formez, c'est des étudiants en géographie?
C'est des étudiants en géographie généralement.
Donc l'idée c'est aussi par après de pouvoir imprimer des cartes, pouvoir...
Oui, c'est ça, parce que c'est d'enrichir la base de données premièrement et de leur permettre aussi d'utiliser cette base de données, parce que un étudiant aujourd'hui qui veut faire son mémoire, il doit aller acheter le fond de carte au niveau du cadastre. Premièrement, ces fonds de cartes ne sont pas, comment l'appelle-t-on, ne sont pas actualisés.
Et ils datent depuis quand?
Bon, tout récemment, on a eu, le gouvernement a commandé une entreprise japonaise qui a fait les relevés raster de tout le pays. Bon, c'est ce qu'on nous a dit. Ça nous a coûté 7 milliards dans le budget. Mais jusqu'ici, on ne voit pas l'utilisation. Parce que on n'a pas les outils. Ça fait déjà 2 ou 3 ans que ce projet-là a été fait. Ce n'est pas encore utilisé. On n'a pas de techniciens. Tout récemment, ils avaient envoyé des gens se faire former à l'extérieur du pays, ça, dans le budget de l'État. Et quand ils sont rentrés, il n'y avait pas moyen d'acheter le logiciel. Parce que c'est des logiciels payants qu'ils utilisent. Or, au même moment, on peut utiliser les logiciels libres qui font aussi bien le boulot. Parce que c'est comme moi, je vois ce que les autres font avec les logiciels payants et que je vois ce que nous, on peut faire avec et que nous, on fait avec les logiciels libres. Je me dis, bon, nos États ont tout à y gagner en investissant plutôt dans la promotion de ces logiciels-là, soutenir les communautés qui les utilisent et pourquoi pas impulser les groupes de développeurs ou bien de contributeurs qui veulent développer ces logiciels. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire des simulations juste avec des modules intégrés à QGIS, par exemple. Tu peux faire des simulations pour savoir, bon, s'il pleut telle quantité d'eau, combien d'habitations peuvent être inondées et tout. Parce que tu as les données sur OpenStreetMap.
Ouais.
C'est des choses comme ça.
Et les étudiants commencent à développer ça aussi
ou... Ouais, bon, le grand problème chez nous, c'est quoi? C'est que même ces étudiants, ils n'ont pas les outils. Il faut avoir un ordinateur, il faut savoir l'utiliser.
Et pas tout le monde.
C'est pas tout le monde. Parce que bon, l'outil informatique,
qui est-ce c'est qui a taxé. Un
bon, avoir un ordinateur, c'est bon, mais bon, c'est des ordinateurs qui datent en fait. Donc c'est des secondes mains qui sont revêtues, c'est sur le marché togolais. Et vu qu'il faut avoir des outils spécialisés sur ces machines-là, la majorité n'arrive pas à tourner.
Comme non, c'est des ordinateurs. Ouais.
C'est des ordinateurs, genre tu fais des saisies, tu fais des traitements de test, ou bien tu joues de la musique. C'est un peu ça.
Ah ouais. On parle de quel type de processeur, quel type de...
Ah, c'est encore des Pentium 4. Bon. Maintenant, un peu plus de dual core qui arrive. On a des ordinateurs qui se vendent, mais c'est cher. Donc, un étudiant, par exemple, qui rentre à l'université, il a juste 10 000 francs CFA. 10 000 francs, ça fait 12-15 euros comme bourse chaque mois sur un an. Il ne peut pas s'offrir un ordinateur qui coûte 200 000 francs.
Non.
Ah, tu vois. Au même moment, il faudrait qu'ils se nourrissent, ils doivent faire le déplacement, ils doivent acheter les polycopes, ils doivent aller se connecter à Internet pour faire les recherches. Donc, c'est tout un problème chez nous. Donc, essayer d'avoir des ordinateurs. C'est en ça même que l'intérêt pour le projet Jerry de fabriquer les ordinateurs, les mettre à disposition, nous pousse en fait. C'est un peu ça.
Ouais. Et donc, toi, comment tu combines le bénévolat avec les études, avec un travail ou comment tu...
Ouais. Bon, ce que je fais, c'est quoi? Bon, je suis toujours en cours, hein. Bon, je suis toujours en économie. Et il y a 2 ans de cela, en fait, j'avais quitté le Fab Lab là où j'étais au début parce que avec le temps, on avait des problèmes de vision. C'était pas une organisation horizontale. Bon, vous décidez de tout ensemble, en groupe, mais il y a une personne qui se dit, bon, c'est pas ça. Vous faites selon mes manières. Ou bien soit vous proposez des idées, on vous dit, c'est pas ça. Mais 2 heures, 3 heures après, la personne revient avec la même idée et il dit que c'est mon idée. Donc, c'est des trucs comme ça.
Des jeux de pouvoir.
Des jeux de pouvoir et tout. Ouais. Donc, en mai 2013, juste après le festival Afropixel, quand je suis rentré au pays, avec les autres, bon, on a décidé d'avoir une réunion, de discuter ensemble en fait, avec le proprio entre griffes en fait. Donc, quand on a eu la réunion, on lui a expliqué, on ne veut pas travailler comme ça, on ne veut pas travailler comme ça, parce qu'on fait du bénévolat. Et la moindre des choses, c'est la paternité et tout, qu'il faut respecter. Il ne faut pas traiter ceux qui donnent par eux-mêmes, faisant du bénévolat. Bon, on ne peut pas se réveiller, les insulter et tout, parce que les gens, ils travaillent gratuitement. Bon. Ça a été une incompréhension. La personne l'a pris, en fait, comme si on venait faire son jugement et tout. Donc, finalement, on a décidé de se mettre de côté. Et vu qu'on a quitté ensemble, on était... Bon, presque tout le monde est passé. Sur les 15, on était déjà 13 à partir. Donc, on était 13 qui étaient prêts à partir. Donc, on s'est regroupés, on s'est dit, bon, il faudrait qu'on lance notre propre truc, vu qu'on est déjà ensemble et qu'il y a plein de projets sur lesquels on a travaillé. Et pour ne pas avoir de problème de conflit d'intérêts et tout, on a décidé que tous les projets sur lesquels on travaillait là-bas, on les laissait. Et quand on remontait d'autres projets, from scratch, quoi. Donc ça a été 1 an et demi, un peu dur pour moi personnellement, parce que bon, je me voyais un peu ce pourquoi j'avais gaspillé un peu 1 an de ma vie à faire gratuitement, sans un franc dans la poche. S'envoler comme ça. Je me voyais un peu dépossédé. Mais heureusement, avec le soutien des autres, j'ai pu me relever et on a lancé un tiers lieu qui s'appelle Minodou. Donc, nous n'avons pas encore de local fixe comme ça parce que, vu que nous sommes presque tous des étudiants, nous faisons des ateliers toujours. Mais on se dit, pour impacter plus, on fait des ateliers dans les villes, dans les villages et aussi dans les quartiers. Donc on négocie avec, que ce soit des associations qui veulent bien nous accorder leur espace pour des ateliers. Donc on permet aussi de tisser un réseau sur place parce que, on ne va pas venir dans un lieu faire un atelier et puis on part, il n'y a pas de suivi. Donc à travers ces associations, on peut avoir un suivi après. Donc c'est un peu comme ça, on a lancé le Open Source Tour qui avait pour objectif de former. Bon, on vient, on fait une semaine d'atelier sur les logiciels libres, que ce soit parler d'Ubuntu, des systèmes d'exploitation libres, des logiciels on peut utiliser des projets open source et tout. Donc, on a fait des ateliers à Kara, au nord du pays, sur une semaine avec l'association OPIM. Après, on a fait des ateliers à Thiévier, à Balimé, et on est en train de réfléchir à retourner au centre du pays avec ce codé. On devait y retourner l'année passée mais on a avorté parce qu'il y avait les élections. Et vu que la majorité de nos actions, nous les faisons en collaboration avec ceux qui sont sur place, ils nous ont dit que ce n'est pas le bon moment pour venir faire des ateliers parce que les gens le verront comme si vous venez faire de la politique et tout. Donc on a avorté et c'est cette année qu'on relance en fait le projet. À part ça, vu que la majorité d'entre nous, c'est, nous sommes des bidouilleurs de code et tout. On initie des jeunes à la programmation et tout. Bon, chacun dans son quartier essaie d'identifier les jeunes qui s'intéressent à l'informatique et que ce soit leur filer des mains, des coups de main dans leurs études ou dans l'informatique, c'est une fois par semaine. Par exemple, moi, dans mon quartier, j'ai plus de 5 élèves que je coach, auxquels je donne des cours scolaires et non scolaires gratuitement comme ça. Donc c'est un peu ce que nous apportons personnellement à l'édification de cette jeunesse-là que nous voulons représenter.
Mmh. Et toi, si tu te projettes 10 ans plus tard, dans 10 ans, tu vois où idéalement, ou comment tu vois la suite, tout ce que tu es en train de monter?
10 ans, je dirais que c'est bon. Dans cinq ans, notre vision, c'est d'avoir un espace pour la communauté qu'on a montée, qui est Minodou. C'est d'avoir un espace où on peut faire des ateliers, avoir des choses physiques qui se font. Ensuite, bon, personnellement, bon, je finis mes études bientôt. Et je travaille sur d'autres start-up parce qu'au niveau de Minodou, pour le financement, nous avons 3 petites start-up sur lesquelles nous faisons par exemple des applications web, bon, des sites internet, construire des sites internet, un peu de graphisme pour construire la charte graphique, la communication numérique, la communication digitale aussi. Donc c'est je veux plus me professionnaliser en tant qu'entrepreneur social. Et je suis en train de travailler sur un projet d'éducation numérique, introduire le numérique en fait dans l'éducation chez nous. Donc c'est sur ce projet surtout que je veux avancer.
L'école secondaire alors
Pas seulement l'école secondaire, mais au niveau de tout le système en fait. Parce qu'on a du contenu. Bon, il y a beaucoup de Togolais qui lancent aujourd'hui des sites de cours en ligne et tout. Mais ils ne voient pas l'importance parce que moi je ne vois pas l'importance parce que on a la mauvaise connexion de l'Afrique de l'Ouest. Donc, avoir accès à un cybercafé qui coûte 200 francs à l'heure, où la connexion n'est pas stable pour aller télécharger des cours ou bien suivre des cours en ligne. Donner des cours en ligne, je ne vois pas l'importance. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de réfléchir à la mise en place dans chaque établissement scolaire d'une bibliothèque numérique. Parce que 80% des élèves aujourd'hui, ils ont un smartphone. Oui. Où les gens peuvent avoir accès, que ce soit de contenu, que des livres audio, des documentaires, des contenus éducatifs pédagogiques qu'on met en place sur un serveur. Donc, ils ont accès à la connexion Internet, mais avec cette connexion-là, ils ne peuvent pas télécharger n'importe quoi. Et on est en train de voir comment, avec les professeurs, on essaie de voir bon, quels sont les sites que vous utilisez, les sources pédagogiques que vous utilisez. Comme ça, on fait des caches qu'on met à disposition des établissements scolaires. Donc c'est le projet phare sur lequel moi personnellement je suis en train de travailler.
Super. Ouais. Eh bien, merci beaucoup.
Super.